Bonsoir et bienvenue sur Agora Côte d'Azur dans Parlons des droits humains, une émission proposée et animée par Martine Monti
et Renaud Broukis,
avec à la réalisation Nancy Zottier.
L'équipe de Parlons des droits humains vous présente tous ses vœux pour 2026. L'émission que nous vous proposons ce soir devait être diffusée le 15 décembre dernier, mais pour des raisons purement techniques, il ne nous a pas été possible de la diffuser à ce moment-là et nous vous prions de nous en excuser. Nous avons donc le plaisir de vous la présenter aujourd'hui.
Ce soir, nous vous proposons une émission consacrée à Gaza, 2 ans après. 2 ans de guerre, 2 ans de souffrance, 2 ans d'impunité, 2 ans d'abandon. 2 ans après le 7 octobre 2023, la bande de Gaza est méconnaissable. Ce jour-là, l'attaque du Hamas contre Israël fait environ 1200 morts côté israélien, et plus de 240 personnes ont été enlevées. La riposte israélienne, elle, a été d'une ampleur sans précédent. Plus de 70 000 morts, selon les estimations des ONG et de l'ONU. En grande majorité des civils, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Des milliers de disparus, des infrastructures détruites, hôpitaux, écoles, mosquées, immeubles résidentiels, etc. Depuis 2 ans, les bombardements se poursuivent, les blocus s'étendent, les aides humanitaires sont entravées. Les Nations Unies parlent de catastrophe humanitaire sans équivalent au XXIe siècle. Et pendant que les morts s'accumulent, les mots, eux, se disputent. Terrorisme, génocide, droit à se défendre, crime de guerre. Des termes lourds qui traduisent la bataille du récit autant que celle des armes. L'armée israélienne affirme combattre le Hamas, mais les faits montrent qu'elle a frappé sans distinction des populations civiles, des hôpitaux, des écoles, des camps de réfugiés. Les organisations internationales dénoncent les violations massives du droit humanitaire. Et pourtant, la communauté internationale reste largement inerte, prisonnière de calculs politiques et d'alliances stratégiques. Le 9 octobre dernier, un plan de paix est signé entre Israël et le Hamas. Dans les jours qui suivent, les derniers otages israéliens sont libérés, tandis qu'Israël libère près de 2000 prisonniers palestiniens et se retire partiellement de Gaza. Mais depuis, le cessez-le-feu est violé presque quotidiennement par l'armée israélienne avec l'approbation des États-Unis et a fait déjà plus de 300 morts dans la population palestinienne. Alors comment comprendre ce conflit 2 ans après? Quels sont les mots justes pour dire l'indicible? Et surtout, quelle perspective de paix pour les Palestiniens dans cette région martyrisée? Pour en parler avec nous, nous recevons ce soir Pierre Stamboul, porte-parole de l'Union juive française pour la paix, militant pacifiste, antisioniste et voix critique du colonialisme israélien. Et avec lui, nous reviendrons sur les faits, les mots, les responsabilités et les espoirs. Mais nous prenons d'abord le temps d'une pause musicale pour écouter Haebak de Hussein Al-Jasmi.
أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني وأنا نذر علي أبقى أحبك بين يوم الدين أنا كل ما نويت أنسى لك الذكرى الحين أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني وأنا نذر علي أبقى أحبك بين يوم
Bonjour Pierre Samboul.
Bonjour.
Nous avons le plaisir de vous accueillir dans cette émission et avant de parler des faits et de ce qu'a exposé Renaud dans son introduction, nous aimerions connaître en quelques mots votre parcours personnel et militant.
Ben, je suis un des deux coprésidents de l'Union juive française pour la paix. Nous existons depuis 1994, au début sur la position « pas de crime en notre nom ». Mais très vite, nous avons connu la Palestine. Personnellement, j'y ai été 7 fois, dont 2 fois à Gaza. Les mots qu'il faut mettre sur cette guerre, vous les avez un peu dit, c'est occupation, colonisation, crime de guerre, crime contre l'humanité, racisme, apartheid, suprémacisme, aujourd'hui génocide. Donc nous sommes une association juive antisioniste.
Alors attendez, d'abord j'aimerais parler de votre personnalité. Pourquoi vous êtes engagé sur ce sujet? En quelques mots, quel est votre parcours?
Moi je suis issu d'une famille juive de résistants communistes de la Deuxième Guerre mondiale, famille maternelle exterminée, famille et mon père seul survivant des 67 membres du groupe Manouchian, arrêté et torturé par la police française avant d'être remis à la Gestapo en novembre 1943. J'ai milité sur des tas de causes, l'avortement libre et gratuit, le syndicalisme enseignant, les prisonniers politiques sud-américains. Mais voilà, la question du Proche-Orient, c'est une histoire intime parce que je connais le sionisme de l'intérieur et il était fondamental qu'il y ait une composante juive dans le mouvement de solidarité à la Palestine, d'où mon engagement dans l'UJFP.
Alors, moi j'aimerais revenir sur les notions de sionisme et d'antisionisme aujourd'hui. Peut-être que ce n'est pas très très clair pour l'ensemble des gens qui ne sont pas au fait du dossier. Le sionisme, c'est donc une théorie, une idéologie qui a été initiée fin du 19e autour de l'idée de mettre en place un État national pour les Juifs. Comment vous qualifieriez maintenant cette vision et qu'est-ce que c'est être antisioniste aujourd'hui?
Le sionisme, dès le départ, est une théorie de la séparation. Les fondateurs du sionisme et Théodore Herzl ont pensé que la seule solution à l'antisémitisme qui était hégémonique à la fin du 19e siècle, c'était la création d'un État ethnique. Ce qui est évidemment absurde, parce que cet État ethnique ne pouvait se construire que par la conquête coloniale. Le sionisme a théorisé l'idée que juifs et non-juifs ne pouvaient pas vivre ensemble, ni dans le pays d'origine, ni dans le pays qu'ils allaient conquérir. Il a créé un colonialisme de remplacement. Il a directement nié l'existence, les droits et la dignité du peuple autochtone. Il a inventé un fantastique roman national disant que les Juifs rentraient chez eux 2000 ans après, alors que les Juifs sont des descendants de convertis de différentes époques et de différentes régions, et que les descendants des Juifs de l'Antiquité, ce sont les Palestiniens. C'est un nationalisme qui a inventé le peuple, la langue et la terre, parce que peuple juif, c'est une notion religieuse, mais dire qu'un juif polonais, un juif yéménite, c'est le même peuple, c'est idiot. La langue, il y avait des langues juives, mais c'était pas l'hébreu qui était uniquement à la synagogue. Et la terre, pour les juifs religieux, ils attendaient le Messie, il était interdit de retourner en Terre Sainte avant, et pour les juifs laïcs, ils se battaient pour l'émancipation sur place. Le sionisme n'a pas lutté contre l'antisémitisme, il a pactisé avec les antisémites dès le début, avec l'idée que l'intérêt des deux était que les juifs quittent l'Europe. Et parmi ces antisémites, il y a les chrétiens sionistes qui sont extrêmement actifs aujourd'hui. Et donc voilà, le sionisme a réalisé un crime fondateur, la Nakba, le nettoyage ethnique de 1948, et penser qu'il puisse y avoir une paix juste sans la réparation de ce crime fondateur est absurde.
Donc l'antisionisme, ce n'est pas s'opposer à cette idéologie qui a existé, puisqu'elle fait partie de l'histoire, c'est s'opposer à ses conséquences actuelles et donc donner aux Palestiniens le droit de vivre sur cette terre.
Absolument. Mais nous, là-dessus, je peux un petit peu préciser,
oui,
notre mot d'ordre, c'est de la terre au Jourdain, l'égalité des droits. C'est-à-dire que le crime fondateur, c'est le nettoyage ethnique de 1948.
On rappelle, ce
pas.
Nettoyage-là, c'est après la première guerre israélo-arabe qui a été perdue effectivement par les pays arabes.
Qui a... Je vais mettre un tout petit bémol.
Oui.
Vous dites, le plan de partage de l'ONU est voté le 29 novembre 1947. Et l'entrée des pays arabes voisins pour leurs propres intérêts et pas pour défendre les Palestiniens a lieu le 14 mai 1948.
D'accord.
Pendant les 6 mois qui séparent les deux, la moitié des 800 000 Palestiniens qui ont été expulsés l'ont déjà été. Et donc l'ONU est responsable de la moitié de la Nakba et ce n'est pas l'entrée en guerre des pays arabes. C'était la volonté délibérée des sionistes d'expulser la population palestinienne.
Merci de le préciser, je pense que c'était important de faire ce rappel.
Absolument. Et par exemple, le massacre de Deir Yassine, qui est le massacre emblématique de la guerre de 48, il a lieu un mois et demi avant l'entrée en guerre des pays arabes.
Donc l'antisionisme actuellement, pour vous, c'est non pas effacer le passé parce qu'il a un poids très très lourd, mais c'est d'expliquer que l'idéologie sioniste a conduit à la situation actuelle, notamment à la colonisation et le massacre de ces milliers de Palestiniens dont on parle aujourd'hui.
C'est un peu aller plus loin. Le sionisme, c'est l'apartheid, mais c'est l'apartheid dès le début. On n'a pas, si je prends l'exemple de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela avait été abordé dans sa prison 3 ans avant sa libération par les hommes de Frédéric de Klerk, qui lui avaient proposé l'indépendance des Bantoustans. Vous allez à l'ONU, vous serez président du Transkei et on signe la paix. Et Mandela avait dit non. Il y a 3 conditions qui ne sont pas négociables. Ils sont l'Afrique du Sud est une et indivisible, une personne égale une voix, et vous reconnaissez que l'apartheid est un crime. Et donc non, il n'y aura pas de paix avec le sionisme. De la même façon que la paix qui a eu lieu en Afrique du Sud a eu lieu sans l'apartheid. C'est-à-dire que les institutions de l'État juif doivent disparaître. Ça ne veut pas dire les juifs à la mer, c'est exactement l'inverse. Qu'est-ce qui a permis aux blancs sud-africains de rester? C'est la fin de l'apartheid. Qu'est-ce qui permettra aux juifs israéliens de rester? C'est le vivre ensemble dans l'égalité des droits. Mais le vivre ensemble dans l'égalité des droits, ça veut dire la fin du sionisme, ça veut dire la fin d'un État juif ethniquement pur.
Et quelle est votre réaction quand on dit que défendre le peuple palestinien de cette façon est assimilé à de l'antisémitisme?
L'antisémitisme, c'est notre histoire intime. Ma famille maternelle a été exterminée et mon père a perdu une large partie de sa famille. Il a été déporté comme communiste, mais pas comme juif. Mais aujourd'hui, je voudrais être assez clair avec ça. Les dirigeants israéliens ne sont pas les descendants des victimes du génocide nazi. Ils sont les descendants idéologiques des collabos. Le père de Benjamin Netanyahou, Benson Netanyahou, était le secrétaire particulier de Vladimir Jabotinsky, dont la milice, le Bétar, s'entraînait en Italie fasciste. Mussolini parlait avec tendresse de notre fasciste juif Jabotinsky. Celui qui a présidé le CRIF pendant 7 ans avant Yonatan Arfi, Francis Khalifa, est un ancien du Bétar. Ceux qui vous traitent d'antisémites quand vous défendez les Palestiniens, ce sont des gens qui ont été au Bétar, qui pactisaient avec les fascistes. Je vais aller plus loin. Pendant toute la Deuxième Guerre mondiale, le groupe Stern qui était dirigé, ou le Lehi, qui était dirigé par Yitzhak Shamir, qui sera pendant 7 ans Premier ministre d'Israël, assassinait des soldats anglais. Donc ça suffit avec cette assimilation d'un État et de dirigeants fascistes de cet État avec la martyrologie des Juifs. Les résistants juifs au nazisme, pour l'extraordinaire majorité, étaient communistes ou bundistes, ils n'étaient pas sionistes. Et au contraire, les sionistes ont joué un rôle confidentiel dans cette résistance et leurs dirigeants actuels ont commencé à être des collabos. Donc je trouve que l'instrumentalisation par une extrême droite de notre martyrologie, elle est totalement obscène. Ces gens-là ont des valeurs qui sont à l'opposé des nôtres. Nous, nous disons par rapport au génocide nazi, plus jamais ça pour personne. Et eux, ils disent ça, plus jamais ça pour nous. C'est une conception tribaliste et nationaliste. Ils imitent complètement vis-à-vis des Palestiniens ce que les nazis nous ont fait, c'est-à-dire d'estimer que nous étions une population surnuméraire.
C'est une façon de lier la mémoire de la Shoah au pacifisme, c'est-à-dire de ne pas se relier à des faits qui n'ont plus rien à voir.
Bah, je pense qu'ils ont à voir. Je pense qu'ils ont à voir. Quand Yvan Attal se permet de dire que les Palestiniens nous ont dit d'avoir eu une Shoah et qu'ils en veulent. Donc sans arrêt, aujourd'hui, les sionistes utilisent comme bouclier face à l'innommable, face au génocide que vous avez décrit, ils utilisent la mémoire de la Shoah. Et pour nous, c'est une obscénité absolue.
On va revenir un petit peu sur les événements du 7 octobre et l'enjeu des otages. Donc effectivement, le 7 octobre, l'attaque du Hamas a provoqué un choc mondial. Des centaines de civils israéliens tués, des familles massacrées, plus de 200 otages amenés à Gaza. Pour vous, est-ce que c'est un massacre qu'on pourrait assimiler à un pogrom ou c'est une révolte contre une oppression, une explosion d'opprimés face à l'oppression, puisqu'en fait, depuis des années, Israël pratique un blocus, annexe des territoires ou fait annexer par des colons israéliens des territoires en violation constante du droit international depuis des années, et ce, dans une totale impunité. Comment avez-vous vécu ce moment-là? Mais comment l'analysez-vous?
Alors d'abord, le mot pogrom est aussi une obscénité. Mes deux grands-mères, maternelles et paternelles, ont été des rescapés du pogrom de Kishinev en 1903. Et la seule survivante, puisque l'autre a disparu, ma grand-mère paternelle me l'a raconté. Un pogrom, c'est la police d'un État qui utilise avec la population fanatisée des massacres contre une population qui a été racisée. Le 7 octobre, non seulement n'a rien à voir avec un pogrom, le 7 octobre, ce ne sont pas les Juifs qui sont attaqués, c'est l'occupant. Si vous voulez comparer le 7 octobre à quelque chose, puisque nous sommes Français, comparons-le au 1er novembre 1954 en Algérie, où après 124 ans d'un colonialisme particulièrement meurtrier, les insurgés, le FLN, le 1er novembre 1954, ont tué des pharmaciens, des médecins, des instituteurs. C'est grave, c'est déplorable, ça s'appelle des crimes de guerre, mais les principaux responsables, c'est le colonialisme. Le 7 octobre, c'est avant tout une sortie de la cage. Je vous ai dit, j'ai été à Gaza. On ne comprend pas le 7 octobre si on ne raconte pas plusieurs choses. Premièrement, 75% de la population de Gaza sont des réfugiés. Ce sont des gens qui ont été expulsés de tout le sud de ce qu'est Israël aujourd'hui, ou ce sont leurs descendants, avec l'interdiction d'aller ailleurs. Gaza a été bouclé par terre, par mer et par air depuis 18 ans. Pour avoir, entre guillemets, mal voté, alors qu'ils ont voté exactement comme la Cisjordanie, et ils ont voté, je regrette bien sûr qu'ils aient voté à base, j'aurais préféré qu'ils votent à gauche, mais ils ont voté, ils ont émis un vote de protestation contre les accords d'Oslo et contre la corruption qui était la conséquence des accords d'Oslo. Gaza, il faut comprendre ce que ça veut dire, un territoire qui est bouclé complètement par terre, par mer et par air, qui est obligé de consommer des marchandises arrivant d'Israël en très petite quantité, en très mauvaise qualité, plus de la moitié de la population vivant sous le seuil de pauvreté, un territoire qui a connu des bombardements innombrables, il faut quand même les rappeler, avec leur nombre de victimes, plomb durci 2008-2009, 1400 morts, pilier de la défense 2012, 180 morts, bordure protectrice 2014, 2400 morts à chaque fois. Une écrasante majorité des morts qui sont des femmes et des enfants, des bombardements qui ont été incessants en 2021, 2022, 2023. Mais j'insiste aussi, par rapport au 7 octobre, sur le fait qu'il y a eu des marches du retour en 2018-2019, où les armes des Palestiniens, c'était en gros des cerfs-volants, et le bilan, c'est 350 morts et 10 000 gens visés, en toute impunité pour les soldats d'Israël qui tiraient comme à la foire. Donc ça, c'est quand même, avant de parler du 7 octobre, il faut expliquer que quand on met les gens en cage, on ne peut pas s'attendre un jour à ce que la cage n'explose pas. Donc avant tout, le 7 octobre, c'est une sortie de la cage. On aurait aimé qu'elle se passe autrement, mais comme disait Nelson Mandela, ce n'est pas l'opprimé qui choisit les formes de lutte, c'est souvent l'oppresseur qui les lui impose. Après, sur le 7 octobre, il y a des crimes de guerre, ils sont incontestables. Je signale quand même qu'environ 400 morts sont des gardes armés, ça c'est pas considéré comme un crime de guerre. Je signale aussi qu'il existe ce qu'on appelle la directive Hannibal, qui veut dire en Israël qu'on ne veut pas de prisonniers, qui a été appliquée depuis la guerre du Liban, qui a été appliquée à Gaza pendant bordure protectrice en 2014, et un certain nombre, on ne sait pas, mais un certain nombre non négligeable d'Israéliens sont morts dans des bombardements de leur propre armée pour éviter qu'il ne soit emmené à Gaza. Je signale aussi que dès le lendemain du 7 octobre, les Israéliens ont répandu des fake news. On savait trois jours après que les femmes éventrées, les bébés décapités, ça n'a jamais eu lieu. On a parlé d'une Israélienne qui avait été violée et qui était enceinte, et il semble bien que deux ans après, il n'y ait toujours pas d'enfant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus prendre la parole des génocidaires à la lettre. Il aurait été beaucoup plus intéressant que depuis le début de cette guerre, les journalistes internationaux puissent venir et enquêter. Il y a plus de 200 journalistes qui ont été tués à Gaza, plus que les journalistes du monde entier pendant tout le XXe siècle, et qu'à aucun moment les Israéliens n'ont permis des enquêtes objectives.
Et justement, alors, après ce massacre, la question des otages est restée centrale, puisqu'en fait, pour les Israéliens, leur libération était un préalable aux négociations de cessez-le-feu. Là aussi, j'aimerais avoir votre avis. On a quand même l'impression que le gouvernement israélien les a instrumentalisés. A-t-il vraiment cherché à les libérer ou les a-t-il sacrifiés au profit d'une stratégie militaire? Certains ont d'ailleurs été tués lors d'opérations israéliennes. Et est-ce que cette position a évolué dans le temps, notamment face à l'opinion publique israélienne qui est, d'après ce que j'ai compris, était partagée sur le sujet?
Alors déjà, j'aime pas trop le mot otage, je vous explique pourquoi. Depuis 1967, 900 000 Palestiniens ont connu la prison. C'est 40% des hommes entre 18 et 50 ans. Parmi les prisonniers, il y en a de nombreux qui sont en détention administrative, c'est-à-dire qui ne sont pas jugés et qui restent en prison de façon reconductible. Il y a de nombreux enfants qui ont été arrêtés, qui ont été en prison pour de longues périodes. J'ai moi-même assisté à Hébron à des arrestations d'enfants de 12 ans. Il y a des femmes qui ont été emprisonnées, dont certaines assez emblématiques, je pense à Khalida Jarar, ou à Retanini. Il y a la torture en prison. Zvi Teman s'est décrit comme un Guantanamo israélien, et en tout cas des dizaines de Palestiniens y ont été torturés, certains sont morts. Donc j'aime pas trop le mot otage. Je peux dire une chose. Contre Gilad Shalit, les Palestiniens avaient obtenu 1000 libérations, dont celle de Yahya Sinwar. Et il ne fait pas de doute que pour ceux qui ont déclenché l'attaque du 7 octobre, dont Yahya Sinwar, leur idée était, on en emmène 200 et quelques à Gaza, on va faire sortir tous nos prisonniers. Et visiblement, Netanyahou, pour lui, la question de ce que vous appelez les otages était totalement secondaire. Non seulement il les a sacrifiés, mais il ne fait pas de doute que vous avez parlé de 240 enlèvements. Il y en a plus de la moitié qui sont morts, et ceux qui sont morts en totalité par les bombardements israéliens. C'est une réalité. Netanyahou a agi adroitement contre toute une partie de son opinion qui ne voulait pas ça, qui aurait voulu une négociation avec la libération de ses otages qui était possible dès le lendemain du 7 octobre, que Netanyahou a sciemment refusé. J'ai un peu l'avis de Gilbert Achkar qui disait sur le 7 octobre, c'est un prétexte pour un nettoyage ethnique qui était prévu de longue date.
D'accord, oui, ça rejoint effectivement une analyse que nous avons déjà entendue. Je voudrais revenir sur quelques mots. Vous avez parlé de l'apartheid tout à l'heure. Moi, j'aimerais revenir sur le mot terrorisme, puisque le Hamas est qualifié de mouvement, est un mouvement politique et militaire, mais qui est qualifié de terroriste par certains pays, et de mouvement de résistance par d'autres. Et j'aimerais avoir votre avis, parce qu'effectivement, l'État colonisateur et l'armée israélienne, en bombardant des civils et en affamant une population entière, ne respectent pas le droit international et agissent eux aussi d'une manière terroriste. Comment vous définissez ce mot par rapport au Hamas?
Moi, je ne le définis pas. Je veux dire que le droit européen, il faut voir ce qu'est devenu l'Europe, utilise le terme de terroriste et a multiplié les lois antiterroristes, mais dans le droit international, ça n'existe pas. Et ça n'existe pas pour une raison assez simple. Si vous appelez terroriste le fait de tuer une population désarmée, alors les Alliés, quand ils font Hiroshima ou quand ils bombardent Dresde, sont des terroristes. On comprend bien que la France, avec les 700 000 morts de la guerre d'Algérie, dont la majorité est des civils, est un pays terroriste. Moi, je vous ai parlé du groupe Manouchian auquel appartenait mon père. On met Manouchian au Panthéon. Enfin, Manouchian, pour les nazis, c'était l'armée du crime. Et on comprend bien que dans toutes les guerres coloniales ou impérialistes, les opprimés ont été traités de terroristes. Le FLN algérien, avant qu'on négocie avec lui l'indépendance de l'Algérie, c'était des terroristes. Le FNL vietnamien, c'était des terroristes. Les résistants de la Deuxième Guerre mondiale, c'était des terroristes. Donc je pense que on devrait se conformer au droit international et ne pas utiliser ce mot. Après, je le répète, le Hamas a commis des crimes de guerre le 7 octobre. Il a accepté d'être jugé pour ça, ce que les Israéliens n'ont jamais accepté. Et si vous voulez vraiment mon avis sur le Hamas, je répondrai comme Georges Abdallah, que j'ai rencontré 9 fois dans la prison de l'Almezan avant sa libération, puis que j'ai au téléphone maintenant de temps en temps, puis qu'il est au Liban. Et il ne peut pas les sentir. Il est marxiste, il est contre, évidemment, l'idéologie religieuse, parce que pour lui, bien entendu, c'est la lutte des classes qui doit libérer le monde, et la lutte anti-impérialiste. Interrogé par ses juges sur « Que pensez-vous du Hamas ?», il avait répondu « Ce sont des résistants, c'est vraiment dommage que ce ne soient pas des communistes. »
Nous allons prendre le temps d'une pause musicale avant de reprendre cet intéressant dialogue. Nous allons écouter « Imagine » de John Lennon.
Suivant le thème de notre émission « Parlons des droits humains » consacrée ce soir à Gaza, la souffrance et l'abandon avec notre invité Pierre Stamboul, porte-parole de l'Union juive française pour la paix. Donc Pierre Stamboul, je voudrais reprendre la discussion au point où un peu vous l'avez laissé avec Martine. Vous avez abordé les notions de terrorisme. On a parlé du fait qu'Israël était un état d'apartheid. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer là-dessus ?
Le sionisme était une idéologie d'apartheid, c'est-à-dire que dès le début, dans la théorie sioniste, les juifs rentraient chez eux et les palestiniens étaient des intrus, il n'était pas question de leur donner des droits égaux. Et dès le début, les institutions sionistes qui ont été créées, 1898, la Banque coloniale juive, 1901, le Fonds national juif, ne s'intéressent qu'aux juifs. Plus tard, quand seront créés les kibbutz, ce seront les kibbutz pour juifs seulement. La Histadrut, le syndicat général des travailleurs juifs, c'est pour les juifs seulement. Et la première action qu'ils vont faire, c'est acheter juifs, boycotter les magasins arabes. Et donc, l'apartheid, il commence en 1948. La déclaration d'indépendance lue par Ben Gurion le 14 mai 1948 à la Knesset, elle dit que, en gros, tout juif, n'importe où dans le monde, s'il fait, comme il dit, son alias à monter, il est automatiquement citoyen israélien. Et il dit en même temps que tous ceux qui ont été chassés de ce qui va devenir Israël, c'est-à-dire 800 000 personnes, ils vont créer la loi des présents absents, leurs biens, leurs maisons, leurs terres sont confisqués et sont donnés à des nouveaux immigrants. Sur les papiers d'identité en Israël, il y a la citoyenneté, donc 100% de la population israélienne a la citoyenneté israélienne, mais il y a la nationalité. Donc 78% ont la nationalité juive, mais 22% ne l'ont pas. Ils ont la nationalité arabe, on ne dira jamais palestinien. À un moment, il y avait eu chrétien, mais c'est arabe. Tcherkès, parce que les Ottomans avaient amené des Tcherkès en Palestine, qui sont des Palestiniens. Ou Druze, parce qu'on a donné des statuts, un statut à part, ou Druze.
Donc, la nationalité, en fait, est fondée sur la religion.
Pas que la religion, parce que j'ose rappeler que le sionisme a été fondé par des athées. Comme disait Ben Gurion, Dieu n'existe pas, mais il a donné cette terre au peuple juif. Et Ben Gurion, comme Théodore Herzl, n'était pas croyant, comme Yitzhak Rabin. Donc c'est pas la religion, c'est l'identité juive reconnue par les rabbins, ce qui n'est pas tout à fait pareil que la religion.
D'accord.
Par exemple, dans l'immigration russe, il y a un bon tiers qui, d'une part, ne sont pas croyants, et d'autre part, ont très peu à voir avec le judaïsme. Mais ils sont reconnus comme juifs par les rabbins, et donc ils ont la nationalité juive.
D'accord. Donc, si on fait le lien avec ce qui s'est passé à Gaza, c'est une guerre des Juifs contre, je dirais, des Palestiniens, des Arabes, des musulmans.
Non, c'est la guerre d'un État juif,
oui,
qui est considéré comme un État juif, dans lequel la loi d'apartheid, qui était la déclaration d'indépendance de 1948, a été considérablement aggravée par le vote en 2018 de la loi Israël État-nation du peuple juif. Dans cette loi, l'arabe n'est plus langue officielle. Les Druzes, d'ailleurs, ont nettement senti qu'ils s'étaient fait avoir dans l'affaire. Je rappelle qu'en Israël, 92% du territoire est interdit aux non-juifs pour habiter. Hein, Tel Aviv, les Palestiniens ne peuvent pas habiter à Tel Aviv. Il y a quelques villes mixtes à Haïfa, où il y a 10 à 15% de la population qui est palestinienne, Ramleh, Lida, Lod, Beersheba. Mais c'est Saint-Jean d'Acre, Akko, mais c'est tout. Jérusalem-Ouest est interdite aux Palestiniens et l'écrasante majorité des villes israéliennes sont interdites aux Palestiniens. Donc c'est un État, hein, apartheid, ça veut dire développement séparé en africanaire. Alors il n'y a pas de développement parce qu'il y a 55% des Palestiniens d'Israël qui vivent sous le seuil de pauvreté contre 15% des Juifs israéliens, mais c'est marqué sur la carte d'identité. Et les Palestiniens sont dans un État juif, et donc sont des étrangers dans leur propre pays. Un nombre incroyable de métiers leur sont interdits. Tous les métiers qui touchent à la sécurité ou à l'énergie, ou à l'enseignement, hors de l'enseignement strictement en arabe. Donc voilà, ça, c'est une situation qui ressemble tout à fait à ce qu'il y avait en Afrique du Sud pour les Noirs, ou dans le sud des États-Unis pour les Noirs.
Alors, on a parlé, à propos justement de ce qui s'est passé à Gaza dans les deux dernières années, de génocide. Et effectivement, c'est un terme qui est revenu très souvent dans la voix des juristes, des ONG, des universitaires. Et est-ce que vous pensez que cette guerre d'extermination, finalement, est un moyen pour Israël, non pas de seulement combattre le Hamas, mais de se battre contre le peuple palestinien pour essayer de le faire partir, de l'éliminer d'une manière ou d'une autre ?
C'était le projet initial du sionisme. Le projet initial du sionisme, dès la fin du XIXe siècle, dès qu'ils ont choisi la Palestine comme endroit où ils allaient faire l'État juif. C'était un État ethniquement pur, et c'était que les Palestiniens deviennent les Amérindiens du Proche-Orient ou les Aborigènes du Proche-Orient, c'est-à-dire refaire là-bas au Proche-Orient ce que les Blancs avaient réussi aux États-Unis ou en Australie. Le sionisme a été créé à un moment où l'idée coloniale n'était même pas discutée, et c'était ce projet. Ce projet a été rendu impossible. Il faut comprendre que les sionistes ont eu un État presque ethniquement pur entre 1948 et 1967. Il y avait 20% de non-juifs, c'était une minorité digérable, on pouvait même leur donner le droit de vote. Mais après 1967 et la conquête de la Cisjordanie, de Jérusalem et de Gaza, on se retrouve entre Méditerranée et Jourdain à 50%, 50% de juifs israéliens et 50% de palestiniens. Et cette situation pour les sionistes n'est gérable qu'avec une fragmentation complète de Palestine et avec une inégalité des droits absolument totale. Et c'est ça qu'ils ont réalisé. Depuis le début du génocide à Gaza, il y a à l'évidence la volonté de reprendre le nettoyage ethnique et de vider Gaza de sa population.
Alors justement, terminez, je vous en prie.
Ce sont les alliés mêmes d'Israël, les alliés arabes d'Israël, qui font que le projet capote. La Jordanie a déjà 55 à 60% de Palestiniens, alors que c'est plutôt les Bédouins autour du roi qui tiennent le pouvoir. Il est évident que pour la Jordanie, accepter 1 million de Palestiniens, c'est faire exploser le pays, donc ils ont clairement dit non. L'Égypte, à un moment, y a songé. Le dictateur Sisi avait détruit la partie égyptienne de la ville de Gaza. Il avait déplacé toute la population égyptienne toute la population égyptienne qui vivait le long de la frontière avec Gaza vers les villes du canal de Suez. Donc on peut penser qu'à un moment, il a songé à héberger quelques centaines de milliers de Gazaouis dans le Sinaï, voire à en faire un pseudo-État palestinien. Il y a renoncé parce que les premières manifestations contre la dictature égyptienne ont eu lieu dès le 7 octobre au Caire et à Alexandrie, et c'était des manifestations de soutien à Gaza. Donc depuis, il est clair, il n'acceptera pas un exode des Palestiniens de Gaza vers l'Égypte. Il y a bien eu l'hypothèse du Qatar qui a été évoquée, mais ce n'est pas sérieux. Donc là-dessus, comme ils ne peuvent pas expulser 2 millions de personnes, ben, ils en ont tué probablement beaucoup plus que 70 000. C'est les corps qu'on a identifiés.
Oui, voilà.
L'ONCET parle de plus de 200 000 morts, donc ça veut dire 10% de la population. Ils en ont estropié un autre 10%, mais les Palestiniens sont toujours là, les Gazaouis sont toujours là. Et nous, l'Union juive française pour la paix, nous sommes en relation quotidienne avec les équipes qui travaillent avec le logo UJFP à Gaza et qui montrent que dans les pires circonstances, la société palestinienne vit toujours à Gaza.
Voilà, donc si je reprends et comprends bien votre propos, cette guerre contre le Hamas, en fait, n'est qu'un prétexte permanent.
Il n'y a pas de guerre contre le Hamas. On enlève ce terme-là qui est un terme de l'ennemi. Je rappelle que le Hamas comme le Hezbollah apparaissent vers les années 1980 en réaction pour le Hamas à l'occupation et pour le Hezbollah à l'invasion du Liban Sud, mais qu'en 1980, il y a déjà eu le nettoyage ethnique principal, il y a déjà eu plusieurs guerres, et donc c'est un prétexte complet. Les Israéliens ne veulent pas de partenaires pour la paix. Quand ils ont eu comme principaux représentants de la résistance palestinienne des laïcs ou des révolutionnaires, le Fatah ou le FPLP, ils les ont massacrés, ils les ont emprisonnés, ils les ont marginalisés, ils ont laissé monter les religieux. Et quand ils ont eu le Hamas comme principale force opposée, ils ont assassiné Cheikh Yassine, Ahmed Rankissi, depuis ils en ont assassiné d'autres. Le problème, ce n'est pas Israël contre le Hamas, c'est Israël contre le peuple palestinien. Et puis je rappelle que le Hamas, au départ, c'est la branche armée des frères musulmans à Gaza. Les frères musulmans qui ne sont vraiment pas ma tasse de thé, hein, je suis un juif athée, quand ils étaient au pouvoir en Égypte, ils ont perdu assez rapidement la popularité qu'ils avaient acquise sous la dictature de Moubarak. Mais enfin, quand ils étaient au pouvoir, Il y avait des partis politiques, il y avait des grèves, il y avait des syndicats, et la frontière de Rafah était ouverte. Et quand il y a eu le coup d'État soutenu par l'Occident, par Israël et par les États-Unis, et qui a porté le dictateur Sisi au pouvoir, ben, il n'y a plus ni parti politique, ni grève, ni frontière de Rafah ouverte, ni syndicats, et 60 000 prisonniers politiques et un président de la République légitimement élu qui est mort, torturé en prison. Donc, présenter les frères musulmans, le Hamas, comme étant le diable en personne par rapport à tous ceux que l'Occident soutient, c'est quand même incroyable, quoi. Je rappelle que le coup d'État qui a porté le maréchal Sisi au pouvoir, il a été soutenu par l'Arabie Saoudite, qui est quand même dans le genre intégriste pas mal.
Et puis, il faut se souvenir également que la mise en place du Hamas a été facilitée par l'État d'Israël pour faire opposition.
Israël ne veut pas de partenaire pour la paix. Donc quand on dit que Netanyahou a laissé passer les valises de billets qui arrivaient à Gaza, c'est vrai. Et il ne l'a fait pas parce qu'il aime le Hamas ou parce qu'il n'aime pas le Hamas. Il l'a fait pour une seule raison. Il ne veut pas d'État palestinien. Et donc s'il y a deux États plutôt qu'un, c'est évidemment mieux pour lui. Je répète. Il faut avoir en tête pour comprendre ce qui se passe, les Israéliens ne veulent pas de partenaire pour la paix. Donc la diabolisation du Hamas participe à ça. Je signale que parmi les organisations terroristes, pour toutes les organisations de résistance palestinienne sont considérées comme terroristes par Israël et par l'Europe. Donc je rappelle, le FPLP est considéré comme terroriste. C'est-à-dire que le FPLP est un mouvement de résistance tout à fait légitime et tout à fait... Dans le même ordre que tous les mouvements de libération nationaux qu'on a eus pendant les périodes de décolonisation.
Donc, pour vous, il est clair que le Hamas est un prétexte, qu'en fait, c'est une guerre contre le peuple palestinien.
Absolument.
Et de ce point de vue, j'aimerais avoir votre vision des choses par rapport justement à l'implication ou la non-implication des pays étrangers par rapport à ce problème. Parce que depuis 2 ans, la plupart des réactions internationales ont oscillé entre l'indignation et l'inertie. Au début, la plupart des gouvernements occidentaux ont soutenu Israël, hein, sans réserve, au nom de la lutte contre le terrorisme. Et puis, face aux images de Gaza, les discours se sont quand même un peu infléchis, sans que d'ailleurs ça change grand-chose sur le terrain.
Et moi, je suis plus sévère que vous, hein. Je considère que ce génocide serait impossible sans une triple complicité,
oui.
Celle des États-Unis, que ce soit les États-Unis de Biden ou de Trump, évidemment, qui ont armé, qui continuent d'armer, et de protéger les génocidaires, celle des États féodaux du Golfe, patriarcaux et esclavagistes, et celle de l'Union européenne, dans laquelle la France joue un rôle majeur. Je dirais même que l'Union européenne, elle est plus que complice, elle est co-auteur de ce génocide. Enfin, quand même, on est plus de 2 ans après le début, ils nous mentent, mais il y a toujours des composants qui partent en Israël. On a toujours, en ce qui concerne l'Occident, le chancelier Merz, qui est en visite officielle chez Netanyahou, alors que Netanyahou est condamné et déclaré criminel de guerre par la CPI. On a le même chancelier Merz qui, quand Netanyahou a fait bombarder Téhéran, a remercié Netanyahou de faire ce que l'Occident n'osait pas faire. Donc moi, je parle complètement d'un Occident qui est co-auteur. Quand dans 20 ans, on se posera la question comment ce génocide a été possible, comme 30 ans après, on se pose la question maintenant sur comment le génocide du Rwanda était possible, ben, il faudra dire un petit peu ce que sont les responsabilités. Et en ce qui concerne l'Union européenne, il y a une complicité politique, économique, commerciale, militaire, idéologique, culturelle, bancaire, médiatique. Alors, médiatique, c'est ahurissant. Je veux dire qu'au lendemain du 7 octobre, il était impossible de ne pas reprendre la parole des génocidaires. Judiciaire, c'est ahurissant. Des centaines de personnes, la majorité jeunes et arabes, sont inculpées de complicité du terrorisme parce qu'ils n'ont pas repris la version officielle de ce qui s'est passé le 7 octobre.
Oui,
c'est-à-dire que quand on donnera les responsabilités de ça, bah, il faudra véritablement faire une introspection. Pour moi, il y a un écroulement de nos sociétés que je compare à l'écroulement de la France en 1940, et Israël est à l'évidence à l'avant-garde de la marée brune qui déferle sur le monde, et les libéraux qui sont au pouvoir en Europe sont totalement complices de ça. On est en train de reproduire ce que Johann Chapoutot décrit très bien dans son livre « Les irresponsables ».
Alors ça c'est le fait des gouvernements, des États, Ceci étant, on voit que dans la rue, la perception quand même a changé. Dans de nombreux pays, il y a des millions de personnes qui manifestent, qui dénoncent, qui réclament des sanctions contre Israël. Est-ce que vous pensez que cette mobilisation, je dirais, de la base, peut peser politiquement ou est-ce qu'elle est condamnée à rester symbolique finalement ?
Ah non, c'est fondamental. Alors ce qui est totalement regrettable, c'est que, alors que dans un certain nombre de pays, les manifestations sont massives, je pense à l'Espagne, à l'Irlande, et qu'elles ont entraîné des prises de position des États, alors qu'en Espagne, ils ont été capables d'arrêter la Vuelta ou des choses comme ça. En France, la criminalisation du mouvement de solidarité avec la Palestine, qui a commencé dès le 7 octobre, elle est un frein incontestable. Je pense que nous sommes probablement majoritaires dans l'opinion publique pour penser que ce qui se passe à Gaza, c'est un génocide et que c'est Israël qui est l'auteur de ce génocide. Mais l'écrasante majorité de nos dirigeants politiques et médiatiques pensent exactement l'inverse. C'est-à-dire que Gaza, c'est le symptôme d'une société qui ne tourne pas rond et d'une société dans laquelle la parole de la société a été confisquée. Ça s'est vu avec les Gilets jaunes, ça s'est vu au moment des grandes grèves contre la casse des retraites, et ça se voit à nouveau sur Gaza. Quand on interroge les gens, ils savent très bien qu'il y a un crime innommable. Et je pense, moi, comme juif, dire « nous ne savions pas », c'est pas possible. Aujourd'hui, on est quand même en 2025. Les images qu'on a de ce qui se passe à Gaza, il y en a des milliers. Moi, j'ai assisté à des émissions pendant des heures sur Al Jazeera. N'importe quel journaliste, il a pu avoir ces images en direct où on voyait les corps sanguinolents qui arrivaient dans les hôpitaux et où on voyait les destructions. Donc ceux qui nient ça, je le dis en tant que juif, ce sont des négationnistes. Ils sont aussi écœurants que ceux qui disaient qu'à Auschwitz, on avait gazé des poux. Et une société qui accepte ça, c'est une société malade. Alors je dirais, quels sont nous, nos moyens d'action? Vous savez, les Palestiniens, aussi bien en Cisjordanie qu'à Gaza, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Ils disaient, l'issue de cette guerre, elle dépend de deux facteurs. Nous, notre possibilité de continuer à faire société malgré tout ce que nous subissons, et vous, votre capacité à obliger vos gouvernements complices à cesser d'être complices et à sanctionner l'occupant.
Alors justement,
il n'y a pas d'autre issue à cette guerre que ça.
Oui, de ce point de vue-là, bon, la Cour pénale internationale, en novembre 2024, a émis des mandats d'arrêt internationaux contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant. Est-ce que vous croyez qu'un jour, ces gens-là pourront être jugés pour leurs crimes? Et d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'ils le soient?
Je suis capable d'analyser le passé et je ne suis pas capable de prévoir l'avenir. Puis ce qui est très clair aujourd'hui, et que ce qui se joue aussi dans ce qui est devenu Israël aujourd'hui, c'est le piétinement total de tout ce qui peut ressembler de près ou de loin au droit international. C'est-à-dire, je pense, c'est un peu mes opinions politiques, que le système capitaliste mondial est en très grave crise, que dans sa très grave crise, il est en train lui-même d'installer partout des oligarques et des soudards à la tête des États. Il est en train de piétiner tout ce qui ressemble de près ou de loin à tout ce qu'il avait lui-même institué, l'ONU, la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice, toute une série d'institutions. Et on comprend bien qu'avec Trump, avec Netanyahou, avec Poutine, avec Milay, avec Erdogan, avec d'autres, tout ça, ça va être complètement piétiné au profit de ce qui est la voie du plus fort. Donc, si Netanyahou, jusqu'à présent, la justice internationale, elle a été la justice du plus fort. C'est-à-dire qu'elle a jugé, et j'étais content, les criminels de guerre de la guerre de Yougoslavie. Enfin, elle a jugé les vaincus, hein, Milosevic et Mladic. Elle n'a pas jugé Tudjman. Elle a jugé Gbagbo en Côte d'Ivoire, mais elle n'a pas jugé Ouattara. Donc elle a été un petit peu une justice de vainqueur. Si D'accord. elle arrive un jour à juger Netanyahou, ça voudra dire qu'on aura rétabli quelque chose qui ressemble à un ordre international.
D'accord.
Pour l'instant, cet ordre international, il est piétiné de façon totalement évidente. Quand vous pensez que Trump a sanctionné les 9 juges de la Cour pénale internationale, que parmi eux, il y a Nicolas Guillou, qui n'est pas un gauchiste, hein, qui n'est pas un islamo-gauchiste, comme on dit, qui est membre de l'Union syndicale des magistrats.
Oui,
être sanctionné par les États-Unis, ça veut dire ne plus avoir de carte bancaire.
Ouais, nous allons devoir terminer là cette partie pour garder un peu de temps pour parler justement de l'avenir et des espoirs ou non de paix. Donc nous allons prendre maintenant le temps pour une deuxième pause musicale avant de conclure cette émission sur justement l'avenir. Donc nous écoutons maintenant Maoutin, un chant traditionnel palestinien.
Terminons notre émission Parlons des droits humains consacrée ce soir à Gaza, la honte et l'abandon avec notre invité Pierre Stamboul, porte-parole de l'Union française pour la paix. Donc nous avons évoqué les événements d'octobre, nous avons évoqué les massacres qui se passent actuellement à Gaza. Et donc depuis des décennies, on parle d'une solution à deux États. Sur le terrain, il y a une colonisation très forte, il y a une démolition totale de la bande de Gaza. Cette idée a-t-elle encore un sens aujourd'hui, ou faut-il inventer autre chose, un espace commun? Quel est votre avis sur la question?
Alors, a-t-elle encore un sens, le encore étant trop? C'est-à-dire que la solution à deux États, elle n'est ni possible ni souhaitable. Elle n'est pas possible parce que n'importe qui rentre en Cisjordanie, il voit partout... le mur, les colonies, les barbelés, ils se posent la question, l'État palestinien, on le met où? Et puis je rappelle que maintenant, il y a quasiment 900 000 colons, c'est-à-dire 12% de la population juive israélienne, et donc on comprend bien que cette solution, elle n'est pas possible. Mais d'abord, je rappelle aussi que cette solution, elle est née des accords d'Oslo, qui ont été une gigantesque supercherie. À Oslo, on a discuté des questions fondamentales de la Palestine, l'État palestinien, la colonisation, Jérusalem, les prisonniers, les réfugiés. On n'a rien signé de tout ça. La seule chose qu'on a signé, c'est la coopération sécuritaire, c'est l'obligation pour l'occupé d'assurer la sécurité de l'occupant. Et on a créé une autorité palestinienne. Et quand vous allez là-bas, les gens vous parlent de Pétain, où ils vous disent qu'ils auraient aimé avoir un seul ennemi et pas deux. Mais je pense que parler de la solution des États, c'est une erreur. Il faut parler du droit. Les Palestiniens ne réclament qu'une seule chose, qu'on leur applique le droit international. Le droit international, ça veut dire liberté, égalité, justice. Liberté, c'est fin de l'occupation, fin de la colonisation, fin du blocus de Gaza, libération des prisonniers, destruction du mur qui balafre la Cisjordanie. Égalité, c'est égalité des droits pour tous les habitants de la région, quel que soit leur origine, leur identité, leur religion ou leur non-religion. Et justice, c'est retour des réfugiés palestiniens, puisque le crime fondateur a été de les expulser. et c'est le jugement des criminels de guerre. Et c'est sur la base de ce droit international qu'il faudra que soit négociée la solution étatique. Parce que si on négocie sur autre chose, on va recréer un monstre. Et ça veut dire aussi qu'on entérinera la disparition du droit international. On va me dire que c'est utopique, d'accord, mais je veux dire que la solution à deux États est utopique. Un seul État laïque et démocratique, c'était la position de l'OLP, c'était la position d'un certain nombre de juifs au moment de la Palestine mandataire, je pense à Martin Buber, mais aujourd'hui il n'y a plus les bases pour ça. Donc utopie pour utopie, je préfère que l'utopie sioniste, qui est une monstruosité, ça veut dire l'expulsion des Palestiniens, échoue. Et donc utopie pour utopie, il faut le droit international, et je répète, c'est une erreur de mettre la solution étatique en avant. Je signale simplement que le droit international, qui veut dire vivre ensemble dans l'égalité des droits, et qui veut dire retour des réfugiés palestiniens, ça veut dire la disparition du sionisme, mais ça veut dire la disparition de l'État juif ethniquement pur. Et qu'une des raisons pour laquelle la solution à deux États n'est pas souhaitable, c'est que 10 millions de Palestiniens sont les descendants des réfugiés de 1948, et donc une solution qui ne s'adresse pas aux principales victimes, qui sont les réfugiés, c'est pas une solution. Et puis que l'État juif doit disparaître, un État ethnique, un État ethnico-religieux, c'est pas possible, un État ne peut être que l'État de tous ses citoyens. Et je le répète, la disparition de l'État juif, c'est pas les juifs à la mer, c'est l'inverse. C'est la possibilité pour eux de rester.
Merci beaucoup Pierre Steinboul d'avoir pris le temps de partager votre regard et votre engagement sur cette situation très délicate.
Vous pouvez réécouter cette émission en la téléchargeant sur le site d'Agora Côte d'Azur. Par ailleurs, elle sera rediffusée lundi 2 février prochain à 21h sur Agora. Et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission Parlons des droits humains, qui aura lieu le lundi 16 février 2026. Très bonne soirée.